Hello Challenger, how are you doing? J'espère que vous allez bien. Chez moi, ça va, Dieu est fidèle, Dieu est sur son trône, il est au contrôle. Nous continuons notre série de lecture du livre de Stormy O'Martin qui parle de la prière d'une épouse est efficace. Le sous-titre, c'est « Croyant ou pas ?» Prions. Père, te bénissons, te rendons grâce. Merci pour ce moment que tu permets. Enseigne-nous dans le nom de Jésus. Amen. Si votre mari n'est pas un croyant, vous savez sans doute quel effet vous aurez sur lui si vous vous acharnez à lui parler du Seigneur, s'il ne s'est pas montré ouvert jusqu'à là. Non pas qu'il faille vous taire à jamais, mais si ce que vous dites est toujours reçu avec indifférence ou irritation, la prochaine étape devrait consister à vous taire et à prier. La Bible dit qu'une femme peut gagner son mari sans rien dire, à cause de ce qu'il va pouvoir observer chez sa femme et qui lui en dira davantage que toutes ses paroles, afin qu'il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme. 1 Pierre 3, versets 1 et 2. Dieu parle des choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Vous pouvez le faire aussi. Vous pouvez dire, je ne vais pas faire semblant, je veux confesser dans la prière que ce qui ne fait pas encore partie de la vie de mon mari existe déjà par la foi. Même s'il n'a pas la foi, je vais prier pour lui comme s'il l'avait. Bien sûr, vous ne pourrez le contraindre de faire ce qu'il ne veut pas faire, mais vous avez accès à la puissance de Dieu par la prière jusqu'à ce que sa voix pénètre l'âme de votre mari. Peu importe combien de temps il vous faudra prier pour votre mari jusqu'à ce qu'il connaisse le Seigneur, même si cela doit prendre toute sa vie. Ce n'est pas du temps perdu. En tant que votre mari soit croyant ou pas, vous pouvez vous approprier toutes les prières de ce livre en sa faveur et vous attendre à être exaucé. Sous-tête, créez un foyer. Aussi libéré que vous puissiez être, si vous êtes marié, il y a toujours deux domaines de votre vie de couple qui révéleront toujours essentiellement de votre responsabilité, le foyer et les enfants. Même si vous êtes la seule à travailler et que votre mari reste à la maison pour s'occuper des enfants, il vous appartient de veiller à ce que votre foyer demeure un sanctuaire paisible, une source de contentement, d'acceptation, de ressourcement, d'instruction, de repos et d'amour pour votre famille. En plus, il est attendu de vous que vous soyez attrayante, bonne cuisinière, bonne maman et en bonne forme physique, émotionnelle et spirituelle. Il y a de quoi se sentir dépassé, mais la bonne nouvelle est que vous n'êtes pas seul pour y parvenir. Vous pouvez rechercher le secours de Dieu. Demandez au Seigneur de vous montrer comment faire de votre foyer un lieu sûr, un havre de paix, où votre famille puisse s'épanouir, un lieu où la créativité et la communication soient constantes et naturelles. Demandez-lui de vous aider à faire votre ménage, votre lessive, ainsi qu'à tenir votre cuisine, faire votre rangement, vos courses et ranger les chambres. Ce sont là des choses de tous les jours pour lesquelles un mari ne remercie pas sa femme souvent et parfois même jamais, mais il remarquera si elles ne sont pas faites. Mon mari peut passer des mois sans ouvrir le placard pour y chercher une ampoule ou une pile, mais quand il le fait, il s'attend à trouver ce qu'il y cherche. S'il entre tard du travail et qu'il a faim, il s'attend à trouver du pain pour se faire un sandwich. Je fais de mon mieux pour qu'il en soit ainsi. Je demande à Dieu de m'aider à entretenir ma maison de façon à ce que mon mari soit heureux de rentrer chez lui et même d'y amener ses amis. Il n'est pas nécessaire d'avoir des meubles luxe ni de faire appel à un décorateur pour faire tout cela. Ma première maison était petite et remplie de meubles que j'avais achetés dans des magasins de meubles d'occasion. Je les repeins de fond en comble avec l'aide d'une amie et les rendus coquettes. Il suffit d'un peu de goût et quelques idées. Pour faire de votre maison un foyer, laissez votre mari en être la tête et soyez-en le cœur. N'essayez pas d'être les deux, ce serait trop. Dieu a mis le mari à la tête de la famille, qu'il le mérite ou non, et qu'il en assume les responsabilités ou non. Tel est l'ordre divin des choses. Cela ne signifie pas qu'une des deux positions soit plus importante que l'autre. Elles sont de pair. Pour que votre mari soit la tête du foyer, il faut que vous lui reconnaissiez cette autorité. Vous êtes appelé à être le cœur du foyer et il vous appartient d'y veiller, même s'il se trouve que c'est vous qui apportez le plus gros du soutien financier de la famille. Inversez les rôles et vous vivrez dans un état de conflit permanent. Cela ne signifie pas que la femme ne peut pas travailler ou que le mari ne puisse pas prendre soin du foyer. Ce sont les attitudes de cœur et l'état d'esprit qui font toute la différence. Il y eut des périodes de plusieurs semaines pendant lesquelles j'écrivais mes livres où mon mari a pris soin de la maison et des enfants afin que je puisse terminer mon travail dans les délais. Cela n'a jamais minimisé son autorité, pas plus que cela ne m'a poussé à usurper sa position. Il a accepté de fonctionner ainsi pour moi. Certes, il eut des moments où il a eu besoin de se reposer et où j'ai dû travailler à la maison. Dans ces moments-là, je l'ai fait pour lui. Pour bien des gens, c'est un équilibre délicat à maintenir. C'est pourquoi il est bon de prier que l'intégrité de ces deux positions dans le foyer, celle de la tête et celle du cœur, ne soit pas compromise. Garder la maison en ordre ne signifie pas que tout doit être parfait, mais dans l'ensemble, la situation devrait être maîtrisée. Si vous devez travailler aussi dur que lui pour pouvoir aux besoins de votre famille, les responsabilités de la maison devraient être partagées. S'il ne veut pas les partager, investissez ce qui est nécessaire à payer quelqu'un pour vous aider quelques heures par semaine. Cela vous coûtera bien moins cher qu'un divorce, qu'un chiropracteur, un thérapeute, un médecin ou un enterrement. Demandez à Dieu de vous montrer ce qu'il en est. Tout ce que j'ai dit du foyer s'applique aussi à votre corps, votre âme et votre esprit. Une part d'effort doit être faite pour les maintenir en bonne santé. J'ai entendu une fois une émission de radio dans laquelle une femme se plaignait auprès d'un psychologue populaire que son mari lui avait dit qu'il ne la trouvait plus attrayante. L'autre répondit par une question. « Que faites-vous pour être attrayante ?» Il n'y eut pas de réponse. Le fait est que l'on n'est pas forcément naturellement attrayante. Même les plus belles femmes au monde doivent soigner leur apparence. La reine Esther était l'une des plus belles femmes du pays, ce qui ne l'empêcha pas de passer un an à s'embellir encore avant de rencontrer le roi. Nous devons nous poser cette même question. Que fais-je pour être attrayante aux yeux de mon mari? Suis-je propre et est-ce que je sens bon? Est-ce que je m'entretiens? Entretiens ma santé en faisant régulièrement de l'exercice? Est-ce que je préserve mes forces et ma vitalité en gardant de saines habitudes alimentaires? Est-ce que je m'habille bien pour lui plaire? Et le plus important, est-ce que je prends du temps seul avec Dieu chaque jour? Je vous garantis que plus vous prendrez de temps seul avec le Seigneur, plus Vous serez rayonnante, la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Proverbe 31, verset 30. Vous ne pouvez vous permettre de ne pas investir en vous-même, dans votre santé et dans votre avenir. Cela n'a rien à voir avec l'égoïsme. Il sera égoïste de ne pas le faire. Priez afin que Dieu vous montre les étapes à suivre et vous rende capable de le faire. Invitez le Saint-Esprit à demeurer en vous et dans votre foyer. Renoncez à vos exigences. Peu de temps après notre mariage, mon mari m'a appelé depuis son travail et m'a dit qu'il voulait que je prépare un certain plat au poulet pour le souper. Je suis allée au magasin, j'ai acheté ce qu'il me fallait. Lui a préparé son plat. Quand il est rentré, il m'a dit sur le pas de la porte, « Je n'ai pas envie de poulet ce soir, je préférerais une côte d'agneau. » Inutile de vous dire quelles pensées ont alors traversé mon esprit, car je suis sûre que vous les avez devinées déjà. Ce ne fut pas un incident isolé. D'autres situations semblables se sont produites trop fréquemment. Combien de fois Michael m'a-t-il promis de rentrer du travail à l'heure pour le souper, pour me dire 10 minutes après l'heure convenue qu'il restait travailler tard et qu'il mangerait avec ses collègues. J'ai fini par apprendre qu'il ne me servait à rien d'être en colère, de me froisser ou de me laisser gagner par l'amertume. Cela ne faisait qu'empirer les choses. Mieux fallait pour nous deux que je m'adapte à la situation et que je renonce à mes exigences. Dès lors, je préparais les repas du soir pour les enfants et moi. Si Michael nous rejoignait à temps, c'est une agréable surprise. Sinon, je pouvais m'en accommoder. J'ai appris que lorsque je dois faire face à la déception, mieux fallait me souvenir des qualités de mon mari. Je me souviens alors combien il aime m'aider avec les tâches ménagères et à la cuisine. Il est fidèle et ne me donne aucune raison d'en douter. Il est chrétien, il va à l'église, lit sa Bible, prie et a des valeurs morales élevées. Il m'aime ainsi que nos enfants. Il utilise ses talents pour la gloire de Dieu. Il pourvoit avec bonté et générosité. Les choses pourraient être bien plus difficiles, si bien que je me refuse à me plaindre, qu'il soit à la maison pour le souper ou pas. Je pense que si je pouvais aider une jeune épouse dans un seul domaine, ce serait de la décourager d'entrer dans le mariage avec une longue liste d'exigences et d'attentes, parce qu'elle serait bien malheureuse si son mari ne s'y conformait pas. Bien sûr, il y a certaines attentes sur lesquelles le couple a déjà dû s'entendre avant de fixer la date du mariage, telles que la fidélité, le soutien financier, l'honnêteté, la bonté, la décence, des valeurs morales élevées, l'amour physique et émotionnel et la protection. Si vous ne recevez pas ces choses, vous êtes en droit de les réclamer. Si vous ne les recevez toujours pas, vous pouvez prier. Mais quand on devient plus précis, vous n'avez pas le droit d'exiger vous n'avez pas le droit d'exiger de qui que ce soit qui réponde à tous vos besoins. La pression de devoir satisfaire tous vos rêves serait insupportable pour un homme. Mais amenez vos besoins à Dieu dans la prière et attendez-vous à lui pour la réponse. Si nous essayons de contrôler nos maris par une longue liste d'exigences qu'ils doivent satisfaire et que nous soyons par conséquent déçus et frustrés quand ils n'y satisfont pas, c'est nous qui sommes grandement dans l'erreur. Les plus grands problèmes dans notre vie de couple découlent du fait que j'attendais de Michael qu'il soit conforme à ce que je voulais qu'il soit ou fasse, et que cela ne coïncidait que rarement avec la réalité. Renoncez à autant de vos exigences que possible. Les changements que vous essayez de provoquer chez votre mari ou que votre mari essaie de réaliser dans sa vie pour vous plaire sont voués à l'échec et ne pourront qu'engendrer chez vous de toutes sortes de déceptions. Offrez-vous d'eux toutes sortes de déceptions. Au lieu de cela, demandez à Dieu d'opérer les changements nécessaires. Il fera bien mieux le travail, car tout ce que Dieu fait durera toujours. Amen. Il n'y a rien à y ajouter et rien à y retrancher. Ecclésiaste 3, verset 14. Acceptez votre mari tel qu'il est et priez afin qu'il grandisse. Puis, quand un changement se produit, ce sera parce que Dieu aura fait son œuvre en lui. Œuvre qui sera durable. Oui, mon âme, confie-toi en l'Éternel, car de lui vient mon espérance. Psaume 62, verset 5. Vos plus grandes attentes peuvent concerner votre relation avec Dieu, pas celle avec votre mari. Et je répète, vos plus grandes attentes peuvent concerner votre relation avec Dieu, pas celle avec votre mari. Ce fut une joie pour moi de faire la lecture avec vous. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous dans le prochain épisode. Moi, c'est Souveraine.